Badania europejskie.
Rozumiem tu Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromy z Europy.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. L'éloignement des États-Unis n'a pas commencé avec Donald Trump. Ce qui est nouveau avec l'actuel locataire de la Maison-Blanche, c'est son leitmotiv « America first ». Conséquence, les valeurs autrefois communes de chaque côté de l'Atlantique le sont de moins en moins. Pour les États-Unis, l'Europe, l'allié traditionnel, est devenue au fil du temps un adversaire, voire un ennemi. Les reproches des Américains à l'égard des Européens ne manquent pas, à commencer par leur faible engagement au sein de l'OTAN. Mais désormais, à propos de l'accord de Paris sur le climat ou encore l'accord sur le nucléaire iranien, ou plus récemment avec la remise en cause des traités sur les armes nucléaires, sans oublier bien sûr la guerre commerciale des États-Unis contre l'Europe, Donald Trump a opté pour la stratégie du cavalier seul, laissant les Européens désemparés. Je vous présente les invités qui nous ont rejoints. Bonjour Thomas Gomard.
Bonjour Nadia
Desesquelles. Vous êtes le directeur de l'IFRI. L'IFRI, c'est évidemment l'Institut français des relations internationales. Votre dernier livre aux éditions Talendier s'intitule L'affolement du monde. Bien sûr, il y a un chapitre sur les États-Unis, un chapitre sur l'Europe, mais on ne peut pas réduire l'affolement du monde au seul souci que les Américains et les Européens ont entre eux.
Non, il y a d'autres sujets qui effectivement contribuent à l'instabilité internationale que nous traversons.
Alors on peut en dire un petit mot, mais vite fait.
Ah, je pense que le sujet principal, c'est évidemment l'émergence de la Chine et le fait que le sujet sur lequel nous allons tous travailler dans les 10 prochaines, voire 20 prochaines années, c'est la nature de la relation sino-américaine qui est le grand facteur d'évolution du système international.
Et un formidable point d'interrogation. Manuel Lafont-Rapneuil, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du bureau de Paris de l'ECFR, le European Council on Foreign Relations. C'est quoi l'ECFR ?
C'est un think tank qui est un think tank pan-européen.
C'est-à-dire un laboratoire d'idées.
C'est-à-dire un laboratoire d'idées pan-européen, c'est-à-dire qu'on a des bureaux dans 7 pays européens et qui travaillent sur la politique étrangère des Européens, la façon dont les Européens arrivent ou pas à faire de la politique étrangère ensemble.
Stefan Sedendorf, bonjour, guten Tag.
Bonjour, Daniel Desesquelles.
Vous êtes le directeur adjoint de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg. Merci d'être en ligne de Ludwigsburg. Alors, deux choses. Qu'est-ce que c'est que cet Institut franco-allemand de Ludwigsburg qui existe depuis déjà très longtemps? Et Ludwigsburg, c'est où en Allemagne?
On se trouve dans la banlieue de Stuttgart. Là, où il y a les appels voitures, vous savez, le centre, un des centres économiques de l'Allemagne. Et l'Institut franco-allemand, c'est vraiment un des tout premiers acteurs du rapprochement franco-allemand, fondé en 1948. Et aujourd'hui encore, centre d'expertise sur la France et sur l'Allemagne et en même temps actif de manière très opérationnelle avec plein de projets concrets de coopération et de collaboration.
Stéphane, vous évoquiez les belles voitures. Je crois qu'on va revenir au cours de ces discussions sur les belles voitures qui posent, semble-t-il, quelques problèmes aux Américains et notamment à Donald Trump. Thomas Gomard, quand on est Donald Trump, comment voit-on le monde? Comment voit-on le monde de Washington?
Ah, on le voit comme une position au sommet de la hiérarchie internationale, mais avec un souci qui est non plus d'assurer le bon fonctionnement de cette hiérarchie internationale, mais de rester le primus inter pares. Et donc ça conduit Donald Trump à voir les alliés européens, plutôt à les voir d'abord comme des clients et ensuite éventuellement comme des alliés. Je pense que c'est ainsi que le président Trump voit les choses. J'ajouterais que ce qui est frappant avec Donald Trump, c'est qu'il est en train de mettre en œuvre ce qu'il avait annoncé pendant la campagne électorale, à un moment où tout cela nous semblait extrêmement fantaisiste. Ça l'est beaucoup moins après 2 ans de présidence. La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que la présidence Trump va produire sur la relation transatlantique et qu'est-ce qu'une réélection de Donald Trump produirait sur la relation...
Éventuelle réélection de Donald Trump.
Mais qui n'est pas à exclure du tout.
Bien évidemment.
Et donc ça, évidemment, c'est sur des hypothèses qu'il faut explorer.
Manuel Lafont-Rapneuil, l'Europe a été l'allié privilégié des États-Unis au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. On peut dire à peu près jusqu'à la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'URSS. Tout ça, ça a changé petit à petit.
Oui, parce que effectivement, l'Europe était l'allié principal, parce que l'Europe était aussi, d'une certaine manière, le théâtre principal des intérêts stratégiques et notamment des intérêts de sécurité des États-Unis, puisqu'on était à l'époque sous la guerre froide et que la confrontation se faisait avec l'Union soviétique et donc essentiellement le principal théâtre possible ou le plus important, c'était l'Europe. Ça a changé progressivement, vous avez raison, et avec quasiment chaque administration depuis la fin de la guerre froide, à commencer par Clinton, il y a eu des moments de tension, il y a eu des désaccords et il y a eu des signes d'un désintérêt croissant des Américains pour un certain nombre de choses qui pouvaient arriver en Europe. On se souvient même à l'époque de Bush, père, sur les Balkans, des hauts responsables américains qui disaient que ce qu'ils n'avaient absolument rien à faire, aucun intérêt en jeu avec ce qui se passait dans les Balkans, et les Européens ont mis beaucoup de temps à convaincre les Américains qu'il fallait qu'ils s'impliquent davantage. Mais effectivement, je pense que Thomas a raison, on est dans une situation assez différente du fait de la vision du monde de Trump, et je pense que c'est pas juste l'Amérique d'abord, parce que tous les présidents américains ont toujours pensé que leur rôle était de défendre les intérêts américains en premier, c'est la façon dont ils voient ses intérêts, c'est-à-dire les intérêts des États-Unis à l'exclusion de ceux des autres. C'est une façon très conflictuelle de voir ses intérêts, et donc il y a un refus du poids de ce que les Américains appellent le fardeau des responsabilités internationales, beaucoup plus prononcé chez Trump que chez tous ses prédécesseurs. Il y a eu des épisodes très compliqués pour les relations transatlantiques chez ses prédécesseurs, on pense à l'Irak en 2003 avec Bush fils.
Cet éloignement des États-Unis de l'Europe n'a comme tout de même pas commencé avec Donald Trump. Barack Obama, pour évoquer simplement le précédent président, privilégiait déjà l'océan Pacifique plutôt que l'océan Atlantique.
Oui, c'est ça, c'est le pivot qui fait passer le monde, le système international, d'une situation dans laquelle l'Europe est le principal théâtre, ou clairement un des principaux, à une situation où le principal théâtre vu par les Américains, c'est le Pacifique. C'est exactement ce que disait Thomas en parlant de son livre tout à l'heure.
Stefan Zehndorf, quand on est en Allemagne, qu'est-ce qui change, en tout cas comment on le perçoit, ce changement fondamental avec Donald Trump dans les rapports entre les États-Unis et l'Europe?
Beaucoup de confusion en vue d'Allemagne. Hein. Je compléterai peut-être Thomas et Emmanuel avec un deuxième élément. L'Allemagne, vous savez, avait eu beaucoup du mal dans le passé à trouver sa place dans le monde, à s'imaginer quel rôle elle pourrait jouer. Et c'est qu'après la deuxième guerre que l'Allemagne occidentale, la République fédérale, a accepté, après quelques hésitations, à participer dans l'élaboration d'un ordre mondial organisé par des règles, par le droit international et par des institutions international. Donc tout cet ordre mondial qui est relié aux États-Unis et à l'Europe effectivement aussi. Et donc l'Allemagne aujourd'hui, elle se demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi notamment le président Trump, il ne semble pas du tout croire dans ce ordre mondial organisé par des règles, par le droit international, par des institutions, tout ce qu'on a construit ensemble pendant 70 ans. C'est pas seulement le centre d'intérêt de la politique américaine qui semble plutôt regarder le Pacifique et la Chine, mais c'est aussi la façon de faire ce président qui semble appliquer une politique étrangère comme il travaillait quand il était à la tête de ses entreprises, et pas du tout en partant des intérêts communs qu'on essaye de stabiliser et élaborer ensemble une stabilité internationale.
Pour se convaincre que dans le ton aussi il y a un changement, il suffit d'écouter Donald Trump.
Oui, je pense que nous avons beaucoup d'ennemis. Je pense que l'Union européenne est un ennemi, vu ce qu'ils nous font en matière de commerce. On ne penserait pas forcément à l'Union européenne en tant qu'ennemi, et pourtant, la Russie en est un aussi. Sous certains aspects, la Chine est un ennemi économique, c'est sûr. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, ça veut juste dire que ce sont des concurrents. Ils veulent réussir, et nous aussi. Et l'Union européenne, elle est très difficile, croyez-moi. Sur le plan commercial, ils ont vraiment profité de nous, et beaucoup de ces pays qui sont dans l'OTAN ne payaient pas leurs factures.
C'était Donald Trump il y a quelques mois sur CBS. Alors les précédents présidents américains pouvaient aussi dire des choses désagréables aux Européens, mais Thomas Goman, il le faisait tout de même en des termes plus courtois.
Plus courtois, mais je pense qu'il faut avoir à l'esprit les grandes masses économiques. Et dans ce que dit le président Trump, avec son style inimitable, il y a la réalité suivante, qui est que la relation transatlantique en termes économiques est très bénéficiaire pour les Européens, en particulier pour l'Allemagne, que la relation économique entre les États-Unis et la Chine est très bénéficiaire pour la Chine, et que la relation entre les États-Unis et la Russie est beaucoup moins importante que la relation économique entre l'Union européenne et la Russie. Et donc Donald Trump a une approche des relations internationales qui consiste au fond à examiner la balance commerciale. Et à partir du moment où elle est déficitaire pour les États-Unis,
c'est l'entrepreneur qui prend le dessus sur le président.
Oui, alors je ne sais pas si on peut parler vraiment d'entrepreneur quand on regarde le parcours de Donald Trump. C'est un entrepreneur qui est parti très bien doté.
C'est un héritier déjà.
Voilà, c'est un héritier et c'est surtout un homme de télévision. Je pense que ce qu'il caractérise dans son parcours, c'est il y a beaucoup de Berlusconi aussi dans la trajectoire de Donald Trump. Cette parenthèse étant fermée, ce qui frappe, c'est effectivement le terme de faux ennemi. et en même temps de concurrents qui l'utilisent dans l'intervention que vous venez de nous faire écouter. Et donc c'est une vision du monde qui est surtout basée sur une lecture assez élémentaire au fond de la balance commerciale et qui met cela en avant par rapport à ce qu'est une relation de nature stratégique. Au fond, pour Donald Trump, la construction très patiente de l'OTAN depuis 1949 est aujourd'hui secondaire par rapport à la question de la balance commerciale des États-Unis.
Alors, revenons un instant sur l'OTAN. C'est vrai que les Américains payent beaucoup plus que les Européens dans le budget de l'OTAN, et c'est une récrimination récurrente des Américains, c'est le fameux partage du fardeau qui est pour l'instant mal partagé.
Oui, et c'est là où il y a sans doute une différence effectivement entre Trump et ses prédécesseurs. Les prédécesseurs avaient insisté à plusieurs occasions sur le fait que ils attendaient plus des Européens en matière de défense. Simplement, la façon dont Trump gère ça, c'est d'une certaine manière, il faut payer pour la protection américaine. C'est pas il faut partager le fardeau en commun parce qu'on a des intérêts communs, c'est ce que je fais me coûte et donc je ne suis prêt à le faire, j'ai aucun intérêt à le faire autre que si vous payez pour la protection, la poursuite de la protection américaine.
Il y a une facture à payer, vous la payez pas.
Et il l'a dit non seulement à ses alliés européens mais à d'autres alliés, et il a eu des déclarations à peu près du même ordre quand il parlait de pays comme la Corée du Sud ou le Japon, alors même que on disait tout à l'heure la Chine et le Pacifique sont censés être plus importants stratégiquement dans l'approche américaine aujourd'hui que l'Europe. Donc il y a vraiment cette approche d'un monde qui n'est pas juste un monde de concurrence d'intérêts économiques, mais la concurrence rejaillit aussi sur les aspects stratégiques. Alors que ses prédécesseurs voyaient ce problème de partage du fardeau, considéraient qu'il fallait que les Européens en fassent plus pour que eux puissent s'occuper de leurs priorités et viennent pas régler les problèmes des Européens à la place des Européens, mais ils étaient conscients du fait que l'OTAN ou l'Union Européenne étaient en tant que projet, des choses qui allaient dans le sens des intérêts stratégiques américains, et donc ils étaient favorables et ils mettaient pas la survie de ces deux organisations dans la balance, dans leurs relations avec les dirigeants européens.
Alors un pays qui consacre une faible partie de son budget à sa défense et qui exporte une grande partie de sa production, notamment aux États-Unis, Stephen Seydendorf, ça ressemble beaucoup à l'Allemagne. Alors on connaît l'obsession de Donald Trump pour les Mercedes et autres BMW, et ça a tout un sens puisque vous êtes pratiquement dans la banlieue de Stuttgart, la patrie de Mercedes. Alors il paraît que les Mercedes envahiraient les rues de New York. Alors, c'est vrai que le commerce entre les États-Unis et l'Europe est largement excédentaire au profit de l'Europe et encore plus pour l'Allemagne. Évidemment, ça interpelle à Berlin la chancelière et les hommes politiques allemands.
Évidemment. La très grande peur, si on connaît la dépendance de l'Allemagne sur l'industrie de l'automobile, c'est la grande peur que Trump il va mettre en œuvre cette idée d'imposer de 25% chaque véhicule importé aux États-Unis, ce qui toucherait évidemment surtout l'industrie allemande. Mais regardons de un peu plus près, puisque pour l'instant on suit en quelque sorte ces, je dirais presque mensonges du président Trump. On parle de ce déficit commercial abyssal des États-Unis. On pourrait aussi dire les États-Unis en quelque sorte ils vivent au-delà de leurs moyens. Ils ont amassé un endettement monstrueux. Et évidemment, quelqu'un finance ce déficit. Et c'est les pays excédentaires, c'est l'Europe en grande partie qui continue à faire crédit aux États-Unis. Et pour l'instant, Trump, évidemment, il essaye de poursuivre cette relation. Et à partir du moment où l'Europe se mettrait d'accord d'investir plutôt en Europe, l'Allemagne par exemple, de favoriser la cohésion sociale aussi de l'Europe, payer par exemple pour les jeunes chômeurs, mettre dans l'infrastructure, la donne elle changerait et on serait un peu moins vulnérable face au chantage de Donald Trump.
Alors Thomas Gomard, est-ce que la rhétorique de Donald Trump est justifiée dans ses échanges commerciaux et dans ses rapports avec la sécurité? Qui est l'imbécile heureux de cette histoire? Plutôt les Européens ou plutôt les Américains?
Ce qui est frappant, c'est que le fait que la politique commerciale soit de la compétence de l'Union européenne établit un rapport de force qui fait que lorsque Jean-Claude Juncker s'est rendu aux États-Unis cet été, il a parlé au nom de l'Union européenne et que ça donne beaucoup plus de poids dans la relation transatlantique que si les capitales européennes essayaient de discuter sur un plan bilatéral. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est tout simplement l'avenir de la filière automobile. Et là, il faut effectivement la penser dans un cadre transatlantique, et c'est un sujet qui concerne en premier lieu l'Allemagne, comme on vient de le dire, mais je pense qu'il faut élargir le problème au fait qu'on va avoir une concurrence de plus en plus vive avec l'acteur chinois, et qu'un des grands enjeux géoéconomiques qui se pose pour les Européens, c'est leur capacité au fond à aller vers ce qu'on appelle toute la filière batterie. Pour vous donner un ordre de grandeur, hein, l'automobile, la filière automobile en France, c'est à peu près 6% du PIB. Donc si cela manque, je dirais, le virage technologique des batteries, ça aura des conséquences industrielles extrêmement lourdes. Donc la problématique, si vous voulez, soulevée par Donald Trump, elle est assez immédiate parce qu'elle est reliée à ce qu'on disait sur la nature du déficit commercial des États-Unis. Donc là, il y a un sujet immédiat, mais il faut que les Européens, à mon avis, utilisent aussi cette controverse, ce différend, pour penser l'avenir de leur industrie automobile, non seulement vis-à-vis du marché américain, mais aussi vis-à-vis du tournant technologique qui s'annonce et de l'arrivée de l'acteur chinois.
On va laisser pour un temps très bref les différents commerciaux entre les deux rives de l'Atlantique pour pointer les désaccords et les désengagements américains à l'égard des Européens. Le plus choquant, je pense que c'est le retrait unilatéral de Washington en mai 2018 de l'accord multilatéral sur le nucléaire iranien, que l'on appelle aussi JCPOA. Alors, ceci malgré les efforts conjoint des Européens, Emmanuel Macron, Angela Merkel et Theresa May, qui ont fait le voyage de Washington. L'Iran, Emmanuel Lafontaine, c'est une obsession de Donald Trump.
Alors, je suis d'accord sur le fait que c'est le plus frappant, non pas parce que cet accord sur le démantèlement du programme nucléaire et les garanties du progrès de la nature civile des activités nucléaires iraniennes est plus important que des accords, par exemple, comme l'accord de Paris sur le climat ou comme le traité sur les forces nucléaires intermédiaires dont les Américains sont aussi annoncer leur retrait, et on pourrait prendre encore des tas d'autres exemples, mais ce qui est frappant dans le cas du dossier iranien, c'est que les Américains se sont pas juste retirés de cet accord, ils ont remis des sanctions contre l'Iran, et ils menacent les Européens d'être eux-mêmes sanctionnés si les Européens continuent à respecter l'accord et à mener la politique qu'ils souhaitent mener avec les Iraniens, et notamment en ayant des relations commerciales avec l'Iran. Et donc on se retrouve pas juste dans une situation comme sur la plupart des autres sujets auxquels on peut penser, où les Américains et les Européens ne sont pas d'accord, mais sont d'accord pour ne pas être d'accord, selon l'expression anglaise, c'est-à-dire décident qu'il faut en parler, qu'il faut trouver des solutions et mettre dans un compartiment à part ce désaccord pour continuer à travailler sur le reste. Mais avec cette menace de sanctions américaines, on a une très très forte pression américaine pour, de façon coercitive, forcer les Européens à s'aligner sur la position américaine de façon totalement indifférente par rapport aux intérêts européens ou à la liberté des États européens, à la souveraineté des États européens qui leur permet normalement d'établir les relations politiques, diplomatiques et économiques qu'ils veulent avec les pays qu'ils veulent. Et ça, effectivement, ça change pas mal la donne.
Alors justement, les États-Unis ont tenté à Varsovie les 13 et 14 février dernier de monter un front contre Téhéran en invitant les Européens à se retirer de cet accord JCPOA avec un relatif insuccès. Ben, ça s'appelle une ingérence, non?
Alors, je ne dirais pas que c'est un relatif insuccès, je dirais que c'était un échec.
Un raté total, d'accord.
En tout cas, clairement, vis-à-vis des Européens. La conférence avait lieu en Pologne parce que les Américains avaient l'impression que les Polonais étaient peut-être traditionnellement plus proches des États-Unis et plus susceptibles de ménager la chèvre et le chou entre leur vision de la bonne politique vis-à-vis de l'Iran et l'intérêt qu'ils ont à garder des bonnes relations avec les États-Unis. Intérêt majeur, intérêt stratégique, intérêt sécuritaire et tradition diplomatique très forte en Pologne. Ça n'a pas empêché les autorités polonaises, avant et après cette rencontre à Varsovie, de dire qu'elles considéraient que ce fameux accord, le JCPOA, l'exécution de cet accord par les Iraniens restait la meilleure politique vue par Varsovie. C'est vraiment cet accord iranien est vraiment aussi intéressant parce que c'est un des sujets comme sur le commerce où les Européens sont unis, mais sur le commerce il y a cette différence institutionnelle qui fait que de toute façon la politique commerciale elle est une politique unique, elle est décidée à Bruxelles, il peut pas y avoir de politique séparée. On aurait pu imaginer sur l'Iran un certain nombre de tentations d'avoir une relation plus bilatérale et donc des divisions ou des divergences plus fortes entre Européens. Pour l'instant, ça tient assez largement le cap.
On va revenir dans la deuxième partie de l'émission sur ce retrait unilatéral de Washington de l'accord multilatéral sur le nucléaire iranien et de ses conséquences commerciales pour les Européens. Mais tout de suite, on va faire une pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Juste le temps de prendre connaissance des toutes dernières nouvelles de la planète. À tout de suite.
Spotkania europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Rebonjour, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. L'éloignement des États-Unis de l'Europe n'a pas commencé avec Donald Trump. Ce qui est nouveau avec l'actuel locataire de la Maison-Blanche, c'est son leitmotiv America First. Conséquence, les valeurs autrefois communes de chaque côté de l'Atlantique le sont de moins en moins. Pour les États-Unis, l'Europe, l'allié traditionnel, est devenue au fil du temps un adversaire, voire un ennemi. Les reproches des Américains à l'égard des Européens ne manquent pas, à commencer par leur ferme engagement au sein de l'OTAN. On l'a vu dans la première partie de cette émission. Mais désormais, à propos de l'accord de Paris sur le climat ou encore l'accord sur le nucléaire iranien ou plus récemment avec la remise en cause des traités sur les armes nucléaires, sans oublier la guerre commerciale des États-Unis contre l'Europe, Donald Trump a opté pour la stratégie du cavalier seul, laissant les Européens désemparés. Je vous représente les invités qui nous ont rejoints dans le studio 42 de RFI. Thomas Gomard, directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Son dernier livre aux éditions Talendier, L'affolement du monde. Manuel Lafont-Rapnoux, directeur du bureau de Paris de l'ECFR, l'European Council on Foreign Relations, et Stéphane Seydendorf, directeur adjoint de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg. Il est en ligne de Ludwigsburg. Alors on évoquait cet accord multilatéral et le retrait des Américains de cet accord multilatéral sur le nucléaire iranien. On a évoqué cette conférence de Varsovie qui a été, Manuel Lafont-Rapnoux nous le rappelait, un échec. Moi je disais un succès relatif, mais un échec. Deux jours plus tard, le vice-président américain Mike Pence se trouvait à Munich lors d'une conférence sur la sécurité en exigeant des Européens qu'ils cessent d'affaiblir les sanctions américaines contre l'Iran via un mécanisme que les Européens ont mis en place qui s'appelle INSTEC, je ne sais pas si je le prononcerai très bien, qui permet aux PME de commercer avec l'Iran via un système de troc, autant dire un système un peu embryonnaire. Je serais tenté de dire, quel culot le vice-président américain Mike Pence, non, Thomas Gomard?
Je ne sais pas si c'est du culot ou l'affirmation aussi de ce que représente la puissance américaine quand elle est exercer avec brutalité. Il y a un point peut-être historique à faire, c'est que l'accord, le JCPOA de juillet 2015, était probablement une des rares bonnes nouvelles de la politique internationale de ces dernières années. Et c'est le fruit de deux actions, celle de Barack Obama, et c'est probablement en ce sens que Donald Trump cherche à détruire ce qui a été fait par son prédécesseur, mais c'est aussi le fruit, c'est l'exemple d'une diplomatie européenne allante, c'est-à-dire qu'il y a eu tout un processus qui a été enclenché par Paris, Londres et Berlin et qui a abouti. C'est un processus qui était, durait presque 10 ans, qui a abouti à cet accord.
Et pour une fois, avec une diplomatie européenne qui a été efficace à travers Federica Mogherini, la représentante européenne de la politique étrangère.
Et elle a joué un rôle, mais je crois que c'est antérieur. C'est-à-dire que c'est un très bon exemple d'une mobilisation sur un dossier éminemment complexe et technique, d'un savoir-faire européen qui a permis d'aboutir à cet accord qui est aujourd'hui foulé aux pieds par Washington. Et je pense que quand on essaie de comprendre les raisons qui motivent l'attitude de Donald Trump, il y a la raison intérieure que j'évoquais, c'est-à-dire défaire ce qu'a fait son prédécesseur, et puis il y a une raison beaucoup plus politique qui est le rapprochement auquel nous assistons depuis l'arrivée à la Maison-Blanche de Donald Trump entre les États-Unis, Israël et l'Arabie Saoudite. Ces trois pays faisant du front contre l'Iran l'alpha et l'oméga de leurs politiques étrangères respectives. Et lorsque l'on voit la manière dont Donald Trump a modifié sa relation avec Israël, là, il y a une rupture aussi très nette par rapport avec Obama, transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, exemple le plus emblématique. Quand on voit le voyage qu'il a fait en Arabie Saoudite, qui a été son premier grand voyage, et je rappelle, suivi d'ailleurs d'une étape en Pologne, c'est-à-dire que le premier pays européen visité par Donald Trump, c'est la Pologne, pour les raisons que vous indiquiez, c'est-à-dire qu'il y a une demande d'États-Unis en Pologne, les Polonais étant prêts au fond à acheter une présence militaire permanente américaine sur leur territoire, en dehors du cadre de l'OTAN.
Stéphane Seydendorf, à propos de cette conférence sur la sécurité de Munich, on peut rappeler la fermeté de la chancelière Angela Merkel après les propos du vice-président américain Mike Pence.
On connaît Angela Merkel maintenant, hein, français et allemand, européen, et là, elle est beaucoup moins habile dans ses jeux un peu de mise en scène que par exemple Emmanuel Macron. Depuis sa première rencontre avec Trump, le courant, il ne passe pas. Elle est visiblement gênée par sa manière de faire, par ses manières. Et puis, le message transmis par Pence, puisqu'il n'a pas parlé de son propre personnage, mais il a juste lu le discours de Trump, ça lui allait pas du tout et ça l'a conforté dans cette idée que l'Europe fera bien de s'organiser elle-même et de se libérer en quelque sorte de ces dépendances qui existent aujourd'hui encore aux États-Unis. Mais c'est facile à dire, mais évidemment très difficile et très long à mettre en œuvre.
Avant de poursuivre notre débat, nous allons faire un détour par la rédaction du Courrier International. Bonjour Sacha Mitchell.
Bonjour Daniel.
La véhémence de Donald Trump à l'égard des Européens est connue et nous l'avons déjà largement évoquée. Mais dans un éditorial du Financial Times, nuance quelque peu cette impression, car Donald Trump fait une distinction entre les Européens de l'Ouest et ceux de l'Est qu'il ménage davantage. Courrier International, Sacha Mitchell.
Absolument, le quotidien économique britannique commence tout de même par un constat. L'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche a provoqué un coup de tonnerre, un bouleversement le plus grand dans les relations américano-européennes depuis la naissance de l'OTAN en 1949. Depuis 2 ans, le président américain traite les Européens comme des concurrents plus que comme des partenaires. Lui, oui, mais heureusement, pas son équipe diplomatique, souffle le Financial Times. Il ne faut pas confondre le comportement grossier et les tweets irascibles du président avec la véritable politique européenne de son gouvernement. Sous certains aspects, souligne le quotidien, Washington fait en réalité preuve d'un engagement envers la défense de l'Europe, au moins aussi marqué que lors des présidences précédentes. Sur le plan militaire, d'abord, on a vu un renforcement de la présence de l'OTAN dans les pays baltes, la Pologne et la région de la mer Noire. Au niveau diplomatique, ensuite, Washington a joué un rôle utile et soigneusement planifié dans le processus qui a amené les gouvernements de Grèce et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine à résoudre leur longue querelle sur le nom de cette dernière. Et ce n'est pas tout. Les États-Unis sont également partie prenante des efforts qui visent à obtenir un règlement de la situation entre la Serbie et le Kosovo et à consolider aussi l'indépendance de l'Ukraine face à la subversion russe, souligne le Financial Times. Bien sûr, ce n'est pas de la pure bonté et encore moins un hasard si les Américains concentrent l'essentiel de leurs efforts sur l'Europe centrale et orientale. Comme le rappelle le journal londonien, pour des raisons liées à la géographie, à la sécurité énergétique et à la fragilité des traditions démocratiques locales, cette région abrite les alliés les plus vulnérables de l'Amérique. Reste que cette alliance, l'Europe doit tout faire pour la protéger, selon le FT. Le mépris affiché par Trump pour l'UE et ses attaques contre les institutions internationales ne doivent pas faire oublier que le maintien de bonnes relations est avant tout dans l'intérêt de l'Europe. Si celle-ci veut garantir que Washington reste impliquée dans ses affaires, conclut le quotidien, elle va devoir travailler dur, se montrer patiente et accroître ses contributions financières et militaires.
Merci Sacha Mitchell, Courrier International, l'Hebdo et courrierinternational.com, le site. Emmanuel Lafont-Rappenou, à l'évidence pour Donald Trump, il y a des bons Européens et des moins bons Européens.
Il y a une façon de rationaliser la politique européenne de Trump. Je suis toujours assez sceptique. Une des principales figures au ministère des Affaires étrangères américain, le département d'État, qui prenait cette approche, a démissionné récemment. Et manifestement, il a démissionné parce qu'il trouvait que ce qu'il pensait être en train de faire, en fait, ça marchait pas vraiment. Je suis pas sûr que Trump s'embarrasse de choses aussi compliquées. On sait qu'il aime pas l'Union européenne. On sait qu'il a des difficultés avec un certain nombre de pays européens. Je suis pas sûr qu'il attache beaucoup plus d'importance à sa relation avec les dirigeants baltes qu'avec sa relation, par exemple, avec d'autres dirigeants européens. Et on voit qu'il a une très bonne relation bilatérale avec Emmanuel Macron, qu'il essaye régulièrement de lui dire « mais sors de l'Union européenne, on fera des accords commerciaux bilatéraux formidables ». Donc je suis pas sûr qu'il faille rentrer trop dans une approche comme ça qui fasse ce genre de distinction. Ce qui est sûr, c'est que il y a parmi les Européens des divisions sur la façon de réagir à cette nouvelle donne dans la relation transatlantique et que pour les pays d'Europe centrale et orientale, traditionnellement, la relation avec les États-Unis est un facteur fondamental de la façon dont ils voient leur politique étrangère et la protection de leurs intérêts, à la fois de sécurité et de leurs intérêts économiques, et que ces pays sont très très mal à l'aise et que donc ça en fait des partenaires très sensibles aux arguments que Trump peut avoir en matière commerciale, sur l'Iran, sur l'attitude vis-à-vis de dossiers comme le Proche-Orient, dont on a parlé tout à l'heure, etc.
Thomas Gomard, on pourrait lister évidemment les désaccords entre les Européens et les Américains pour évidemment évoquer le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, évidemment le retrait unilatéral et improvisé des troupes américaines en Syrie, mettant évidemment les alliés devant le fait accompli, ou encore la dénonciation du traité sur les armes nucléaires de portée intermédiaire, si je dis pas de bêtises, c'est entre 400 et 1500 kilomètres, c'est ça, hein, voilà, qui laisse l'Europe en tête à tête avec la Russie. De tout ce que je viens de citer, et on pourrait rallonger la liste, qu'est-ce qui vous paraît le plus important?
Avant d'identifier ce qui est le plus important, si vous le permettez, je voudrais prolonger ce que vient d'indiquer Emmanuel, parce que comme lui, je pense qu'il n'y a pas de différenciation entre pays européens. En revanche, il y a la réactivation d'un vieux débat qui avait été formulé en 2003 entre la vieille et la nouvelle Europe. C'est-à-dire que 2003, si vous vous souvenez, Donald Rumsfeld avait écrit cette fameuse lettre qui avait marginalisé d'une certaine manière Paris-Berlin, qui à l'époque était aligné sur Moscou dans l'opposition à l'intervention anglo-américaine en Irak.
Dans la liste que j'évoquais tout à l'heure, donc le retrait sur l'accord de Paris sur le climat, le retrait unilatéral en Syrie ou la dénonciation du traité sur les armes nucléaires intermédiaires, qu'est-ce qui vous paraît le plus important?
Moi, je pense que le traité FNI, c'est effectivement...
C'est le traité sur les forces nucléaires intermédiaires.
Voilà. C'est probablement considéré comme technique. En réalité, c'est décisif. C'est un sujet à mèche lente parce que progressivement se désarticule tout ce qui avait permis à la fois de sortir de la guerre froide et d'encadrer la relation de sécurité avec la Russie. Et donc le fait que les États-Unis assument le coût politique de la sortie de ce traité qui a été violé par la Russie, fait qu'au fond, un certain nombre de dispositifs de ce qu'on appelle de maîtrise des armements, quand on voit aussi l'évolution de l'OSCE, on est dans une phase de délitement de toute une architecture de sécurité. Et ça, c'est évidemment très problématique parce que nous avons un acteur russe qui a la trajectoire que l'on connaît et qui sent, au fond, des espaces s'ouvrir à la faveur de ce démantèlement. C'est bon ni pour la Russie à mes yeux, ni pour les Européens. Donc pour moi, j'insisterai sur le traité FNI et je pense qu'un sujet sur lequel nous devons évidemment travailler, c'est les conséquences de ce démantèlement.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquel.
Carrefour de l'Europe entre les États-Unis et l'Europe, la dérive des continents. Nous sommes avec Thomas Gomard, directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, avec Manuel Lafont-Ratnouille, le directeur du bureau de Paris de l'ECFR, l'European Council on Foreign Relations, et avec Stefan Seydendorf, le directeur adjoint de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg. Alors justement, Stefan Seydendorf, comment perçoit-on Donald Trump à Berlin? Est-ce qu'on retient surtout sa volonté de démolir tout ce qui a été fait par ses prédécesseurs et le dernier d'entre eux, Barack Obama?
Je pense que c'est surtout ça, et puis on commence à prendre conscience de cette nécessité d'aller beaucoup plus loin dans la coopération européenne en matière de défense et de sécurité. La question évidemment c'est comment faire. Si je peux reprendre quelques éléments qu'on vient de discuter, j'irai même beaucoup plus loin sur les pays de l'Europe de l'Est, c'est pas seulement pour des raisons historiques qu'ils sont proches des États-Unis, qu'ils se tournent vers les États-Unis pour la question de sécurité. Qui va les défendre aujourd'hui en cas de russe, comme on a pu l'observer en Ukraine, dans une intrusion, dans une guerre à faible fréquence, qui va les défendre? C'est pas les 4000 ou 5000 soldats de l'OTAN stationnés dans les Baltiques actuellement. On a en tant qu'Européens probablement pas les moyens de les défendre. Si on va un peu plus loin, moi aussi je pense que le traité nucléaire sur les armes de portée intermédiaire et la destruction de ce traité, c'est certainement le facteur qui va nous occuper encore le plus longtemps. Qui va défendre l'Europe nucléairement? La France est là, sa force de frappe. Dans l'article dans le traité d'Aix-la-Chapelle signé par le président Macron et la chancelière Merkel, il y a un article qui prêtait un peu à confusion, comme si la France allait élargir sa protection nucléaire sur l'Allemagne, et ça a été démenti par le président français actuellement, ça porte sur la défense de la France. Donc l'Europe, à part le bouclier américain, il n'y a pas grand-chose pour entrer dans une nouvelle phase de confrontation nucléaire avec la Russie. Et évidemment, la stratégie de Poutine, elle est actuellement exactement ça, de couper l'OTAN en deux. La partie qui pourrait être attaquée avec ses missiles de portée intermédiaire, Berlin par exemple, l'Europe, et la partie qui reste aux États-Unis inattaquable et donc qui pourrait donner la tentation à Donald Trump de dire finalement toute cette affaire de défendre nucléairement l'Europe, ça nous concerne plus, on reste aux États-Unis et on s'arrange avec la Russie. Les Européens, ils vont avoir fort à faire pour éviter ce genre de situation et donc ils restent en partie dépendant des États-Unis sur ces questions-là et ça va évidemment avoir des conséquences pour la politique qu'on peut mener face à Trump.
Manuel Lafont-Apnouille, tout est toujours un peu compliqué à interpréter avec Donald Trump qui communique essentiellement via Twitter. Entre parenthèses, on peut noter qu'il a 58 millions de followers, probablement un record du monde, et un président qui change souvent d'avis. C'est en tout cas l'impression qu'il donne, sans parler de sa méconnaissance du monde. Je voudrais vous raconter la petite confusion que le président des États-Unis a eue lorsqu'il a reçu les présidents des pays baltes à Washington, qu'il a cru qu'ils venaient des Balkans, cette petite histoire que vous avez forcément en mémoire.
Oui, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je ne suis pas sûr que Trump différencie entre les pays européens, parce que je ne suis pas sûr qu'il ait une connaissance très précise de la différence. Il se trouve qu'il a une femme slovaque, et donc peut-être qu'il est une des rares personnes aux États-Unis à ne pas confondre la Slovénie et la Slovaquie. Mais sinon, effectivement...
Mais ça s'arrête là.
Mais sinon, effectivement...
Cette petite histoire a le mérite d'être racontée. Il reçoit les trois présidents baltes à Washington, peu après son élection, et il commence à leur dire bravo, vous êtes vraiment travailleurs, formidables, etc. Mais je ne comprends pas pourquoi vous êtes responsable un peu de la guerre en Yougoslavie. C'est un truc qui pas ça.
C'est ça, alors que a priori les pays baltes sont pas exactement au même endroit que les Balkans et que justement parce que il les recevait, il a cette espèce de façon de traiter les dossiers sur la base de son intuition, manifestement plus que sur la base des briefings qui lui sont faits. C'est aussi une de ses marques de fabrique. Sur le fait qu'il change d'avis, par contre, je suis moins d'accord. Je pense que on a au contraire quelqu'un qui a persisté contre certains de ses conseillers, qui d'ailleurs depuis sont partis ou ont été virés, contre le Congrès qui n'est pas toujours tout à fait favorable à ses intuitions et à ses approches, contre l'establishment, contre ses partenaires. Il a déroulé de façon assez efficace l'essentiel du programme, notamment sur les questions de politique étrangère qu'il avait quand il faisait campagne, alors que à l'époque on pensait que c'était non seulement très surprenant de la part de quelqu'un qui prétendait à la responsabilité de la présidence américaine, mais par ailleurs impossible parce que justement les contre-pouvoirs, le poids des conseillers, le poids des institutions, le poids des intérêts de sécurité, des intérêts économiques empêcherait Trump d'aller aussi loin. On voit qu'il n'y a pas grand-chose qui l'arrête, au contraire, et qu'il est assez têtu. Et on sait que plusieurs fois, ses conseillers ont essayé de ne pas lui présenter une décision qu'il avait demandée ou de le faire revenir sur un certain nombre de choses. On a, vous avez parlé du retrait en Syrie. Plusieurs fois, il a dit qu'il voulait se retirer. Et puis à chaque fois, ses conseillers repassent derrière en disant quand même c'est compliqué et manifestement lui explique les raisons pour lesquelles c'est compliqué. Donc il met un peu d'eau dans son vin. Mais à chaque fois, il est revenu là-dessus. Et il a fini par faire ce qu'il avait dit qu'il ferait sur énormément de sujets en matière commerciale, dans la relation avec la Chine, sur le dossier iranien, sur le processus de paix au Proche-Orient, sur l'OTAN, etc., etc., etc.
Alors justement, Thomas Gomard, effectivement, un observateur, un citoyen, on peut avoir l'impression que la diplomatie américaine est un peu fouillie. Pour aller un peu au-delà de ce que vient de dire Manuel Lafont-Apnouille, est-ce que vous trouvez que c'est le cas ou est-ce qu'il y a une colonne vertébrale américaine sur le plan de la diplomatie, hein, au-delà des tweets de son président?
Bon, d'abord, moi, je trouve qu'il tweete très bien.
Il maîtrise bien le 140 signes.
C'est assez remarquable. C'est d'ailleurs tout à fait fascinant de voir comme Twitter est devenu un outil diplomatique en très peu d'années. Il y avait eu des travaux là-dessus il y a une dizaine d'années et je pense que nous n'avions pas anticipé l'importance de ce changement d'outillage. Cette parenthèse faite, moi, je vois de la cohérence. Sur deux axes principaux. Le premier, c'est celui que nous avons déjà évoqué, c'est-à-dire le côté unilatéraliste et donc de prise de décision sans se sentir empêché par le système d'alliance, et donc ça se traduit par une succession de retraits. Et puis surtout l'axe, à mon avis, beaucoup plus important parce que il est bipartisan, et pour avoir fait un certain nombre d'entretiens à Washington récemment, il est à mon avis source de consensus, c'est l'opposition de plus en plus frontale avec la Chine, exprimée de manière forte par le discours de Mike Pence en octobre dernier. Et là, il y a au fond, à mon avis, un consensus qui est en train de se créer aux États-Unis, encore une fois bipartisan, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne ou plus grand monde à Washington pour envisager un assouplissement du régime chinois, une sorte d'évolution, d'ouverture, comme ça avait été au fond espéré après l'entrée de la Chine dans l'OMC en 2001. Cette vision commence, enfin c'est fini avec la crise de 2008, et on est beaucoup plus dans une vision selon laquelle, si l'ascension de la Chine doit être arrêtée ou encadrée, c'est maintenant ou jamais. Et ça, je pense que c'est un élément de cohérence qui va bien au-delà du premier cercle autour de Donald Trump.
Alors les Européens sont quelque peu déboussolés par l'attitude de Donald Trump, ce qui n'empêche pas Nathalie Loiseau, la ministre des Affaires européennes française, d'ironiser, je la cite, « Donald Trump est le meilleur avocat de l'Union européenne », mais est-ce que l'Europe sera capable de surmonter ces divisions face à cette Amérique qui se retourne contre elle ? Alors on a évoqué la séduction du groupe de Visegrad à travers la Pologne, notamment pour Donald Trump, la fragilité de la position allemande qui a toujours des voitures et des grosses voitures à vendre et qui est donc très dépendante des USA. Stéphane Seydendorf, est-ce que Donald Trump est le meilleur avocat de l'Union européenne, vous le diriez ?
En quelque sorte, oui. Sur le moyen terme, évidemment, on peut se poser la question si ce serait seulement souhaitable un peu plus d'autonomie stratégique aussi de l'Europe, un peu plus de cohérence, on l'espère tous, mais pas forcément et surtout pas en opposant les États-Unis. L'idée sur laquelle l'Union européenne est basée, c'est-à-dire de construire un ordre mondial organisé par des règles, par des institutions internationales, par la négociation, la prise en compte des différents intérêts, c'est quelque chose qui a fondamentalement besoin aussi d'intégrer les États-Unis. Très simplement, un petit exemple sur les voitures, puisqu'on en a parlé. C'est vrai, l'Allemagne exporte aujourd'hui 500 000 voitures à peu près par an aux États-Unis, c'est 25% moins qu'il y a 4 ans, mais en même temps, Mercedes, Volkswagen, BMW, ensemble, ont trois grandes usines aux États-Unis où ils produisent 800 000 voitures par an. Donc il y a plus de voitures allemandes produites aux États-Unis que exportées de l'Allemagne vers les États-Unis. Et ces voitures, évidemment, elles sont construites par des employés américains, par 35 000 employés américains. Dans ces usines des producteurs allemands qui emploient indirectement encore 80 000 personnes autour. Et tout ça, c'est une réalité du commerce international qui existe aujourd'hui, tout autant que de ces 800 000 voitures américaines construites aux États-Unis par des producteurs allemands. Il y a 60% qui repartent à l'export, mais qui comptent évidemment dans la balance commerciale américaine et pas allemande.
On comprend bien
c'est compliqué les choses, c'est compliqué le commerce international et on ne peut pas espérer de tresser les blocs, l'Europe contre les États-Unis, contre la Russie, contre la Chine. Il faut espérer qu'on arrive à sauver ce qui reste de cet ordre mondial institutionnalisé, réglé par le droit international.
Évidemment, illustration de la complexité du monde dans lequel on vit. Manuel Lafont-Rapnoul, c'est vous qui allez avoir le mot de la fin. Quelle est la marge de manœuvre de l'Union européenne ? Alors, on constate des petites avancées en matière de défense, par exemple 30 milliards d'euros pour financer la recherche dans le domaine militaire. L'idée d'une armée européenne est régulièrement évoquée, mais on est quand même très très loin. Est-ce que l'Union européenne ne doit pas changer de logiciel et doit se protéger un peu plus efficacement sur le plan industriel, commercial, numérique et de moins en moins compter sur les Américains pour leur sécurité ? L'Europe qui protège, c'est évidemment un thème dominant à la veille de ces élections européennes.
Alors, elle doit le faire certainement pas uniquement à cause de la relation avec les États-Unis. En matière commerciale, elle doit aussi défendre ses intérêts par rapport à la Chine. En matière de sécurité, on peut aussi penser qu'elle doit défendre ses intérêts par rapport à d'autres menaces, comme le terrorisme ou ce que Thomas disait tout à l'heure sur l'instabilité accrue de l'architecture de sécurité en Europe. Et là-dedans, la place et le rôle et l'attitude des Russes comptent aussi, évidemment. Et il y a des marges de manœuvre pour le faire. On le voit voix sur un certain nombre de dossiers. En matière commerciale, en matière de politique de la concurrence, les Européens sont parfaitement capables de définir leurs intérêts et d'affirmer leurs intérêts face, y compris face aux Américains. En matière de défense, c'est un peu plus compliqué. Mais plus qu'un problème de capacité, moi je crois vraiment que les Européens peuvent faire plus, c'est un problème de volonté. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a une partie des Européens qui sont tétanisés. On disait tout à l'heure, Angela Merkel a fait des déclarations assez fracassantes pour une dirigeante allemande sur le thème « il faut que les Européens arrêtent de croire qu'ils peuvent compter sur les autres et qu'ils prennent leur destin entre leurs mains », mais c'est pas tout de le dire, il faut ensuite prendre des décisions pour être capable de le faire. Tous les pays européens ont pas, se sont pas encore mis en ordre de marche là-dessus. Il y a ceux qui essayent de répondre en bilatéralisant, c'est-à-dire en disant bah, on va essayer, nous, d'avoir une relation privilégiée. On a beaucoup parlé des pays d'Europe centrale et orientale, et par exemple, les Polonais font ça, mais je pense qu'il faut être lucide sur le fait que ça n'est pas que les pays d'Europe centrale et orientale qui ont ce réflexe. On voit aujourd'hui le nouveau gouvernement italien chercher sans doute à jouer ça. On sait que c'est une longue tradition britannique, c'est plus compliqué pour les Britanniques en ce moment, mais il y a sans doute aussi cette logique-là, a fortiori avec le Brexit pour les Britanniques. Et donc, tout ça fait que la solution qui serait d'européaniser est plus compliquée, et elle est tellement compliquée que justement, il y a des Européens qui disent « Oula, mais attention, en fait, si on développe nos capacités en tant qu'Européens à défendre nos intérêts, on va encore accentuer et accélérer le divorce, la dérive des continents, comme vous disiez, le divorce avec les Américains. » Et c'est exactement le débat qu'on a aujourd'hui en Europe. Jusqu'à quel point et à quel rythme peut-on et doit-on accélérer cette européanisation de nos politiques étrangères et de défense?
Merci à tous les trois d'avoir posé toutes ces questions, d'avoir été au carrefour de l'Europe. Réalisation Olivier Roux avec Sacha Michel du Courrier International et la complicité de Nicolas Munch. Sur la page de l'émission, des infos sur nos invités. Je rappelle le livre de Thomas Gomard, L'affolement du monde, aux éditions Talendier. Pour écouter ce carrefour de l'Europe et tous ceux qui l'ont précédé, deux possibilités, le site RFI.fr ou l'application RFI Pure Radio, dans les deux cas, rubrique émission. On reste en contact via Facebook et Twitter, où vous pouvez retrouver d'ailleurs le président Donald Trump. Daniel Desesquelles, où que vous soyez, à Ludwigsburg, Paris, Washington, ailleurs dans le monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mais tout de suite, un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.